Voix Nue. Toute cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Éric Hazan. Ce soir, combattre l'ordre existant et quitter le cocon familial.
Bonsoir Éric Hazan.
Bonsoir.
Hier, nous nous sommes arrêtés sur votre enfance dans la guerre. Vous aviez dit que s'il y avait une période qui vous a fait ressentir ce qu'était votre judéité, ce que voulait dire être juif, c'était cette période de guerre où vous avez dû vous cacher avec votre famille. Or, quand on regarde de loin votre adolescence, donc après la guerre, on voit un engagement au sein des jeunesses communistes, puis au sein du FLN. Puis quand on avance dans le temps, vous êtes jeune médecin, vous êtes envoyé d'abord en mission en Algérie, puis au Liban, où vous vous engagez et vous vous liez à ceux que vous appelez vous-même des palestino-progressistes. Est-ce qu'on peut parler d'un tropisme politique arabe, Éric Hazan?
Je ne sais pas si je dirais ça. Je dirais que la guerre d'Algérie, ça a été pour toute ma génération un événement, une série d'événements, des années longues et extrêmement dramatiques et dangereuses par moments, violentes, très violentes. Donc ça, c'était très, très important dans mon parcours, la guerre d'Algérie, déterminant. Alors la guerre d'Algérie s'arrête en 62. Disons que la question palestinienne, elle est rentrée dans ma vie en 67. Auparavant, je crois pas que ça me turlupinait tellement, la Palestine. Mais en 67, au moment de la guerre de 67, oui, c'est devenu un problème. C'est devenu quelque chose qui a fortement marqué et qui continue de faire partie de mes préoccupations principales.
Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans votre esprit? Qu'est-ce qui vous
La guerre de 67, l'occupation de la Palestine par l'armée israélienne.
Il y a des images qui vous sont parvenues et qui vous ont particulièrement sensibilisé à cette cause?
Oui. L'agression que représente cette guerre de 67 et l'occupation de la Palestine par l'armée israélienne, c'était quand même quelque chose, c'était énorme. Même si ceux qui connaissent bien, qui connaissent mieux que moi la question palestinienne, c'est depuis 48 que la question les travaillait. Mais moi, je l'avais pas vu. Je l'avais pas compris, je l'avais pas vu. C'est en 67 que j'ai compris. Enfin, que j'ai compris. J'ai pas tout compris. Mais, disons, j'ai dû faire partie des membre fondateur de l'association médicale franco-palestinienne. Ça doit être le début des années. Ça doit être en 70, 71, 72, par là.
Avant de partir au Liban en 75.
Oui.
On va y revenir plus en détail, mais avant cela, j'aimerais qu'on parle de votre engagement au sein des jeunesses communistes à l'âge
de 18 ans,
20 ans.
Ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque en 56...
Vous y avez tout de même rencontré des personnes qui ont compté pour vous?
Oui, en fait, c'était les mêmes que mes camarades de lycée. C'était mes camarades de lycée qui sont devenus ensuite des camarades de faculté. Ceux-là, en fait, je suis resté avec eux, quoi. Les mêmes. Parce que on a tendance à recouvrir d'un vaste chapiteau tout ce qui touche au communisme de cette époque. Ce chapiteau, c'est stalinisme. Alors, évidemment qu'à cette époque, les dirigeants du Parti communiste français étaient des staliniens et à bien des égards des canailles. En revanche, l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans la jeunesse dont je faisais partie, ça n'avait rien de stalinien. C'était joyeux, c'était libre, c'était formidable. C'était formidable.
Vous avez un souvenir joyeux de cette époque, Éric Hazan?
Un souvenir particulier. Le souvenir le plus clair que j'ai, c'est la première manifestation à laquelle j'ai participé. C'était en 1952, 16 ans, je devais être en première. C'était la dernière manifestation très dure montée par le Parti communiste et la CGT, contre l'arrivée à Paris d'un général américain qui s'appelait Ridgway, qui avait commandé en chef en Corée, et les communistes l'accusaient, sûrement à tort, d'avoir utilisé là-bas la guerre bactériologique, l'arme bactériologique. Et on disait, on ne veut pas de Ridgway la peste. Et cette manifestation a été une grande violence. J'ai fini dans une pissotière qui avait devant la porte du lycée Saint-Louis, sur le boulevard Saint-Michel. Il y avait encore des pissotières à ce moment-là. Et j'étais bien content qu'elle soit là parce qu'il y avait une charge de la police, une brutalité extrême. Je me suis retrouvé là-dedans, bien content.
C'était pas un souvenir très joyeux, tout de même.
Si, si, c'était drôle. C'était sympathique, on y allait en groupe. Si, 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 c'était drôle. On rigolait, si, si.
Vous dites de ces années qu'elles vous ont apporté des amis, qui vous ont éduqué politiquement, socialement, et vous ont aidé, je vous cite, à vous dégager du cocon familial. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience qu'il fallait vous dégager de ce cocon?
À ce moment-là, quand j'avais 15-16 ans, ben je me disais que je voyais bien que j'étais dans le cocon d'une famille qui s'accommodait très bien de la brutalité et de l'injustice régnante. Et que si je voulais participer à ceux qui combattaient l'ordre existant, ben il fallait sortir du cocon, il fallait sortir du milieu familial. Enfin, j'en suis pas sorti matériellement, parce que à 14 ans, 15 ans, faut bien vivre. Hein. Mais dès que j'ai pu, je suis sorti matériellement. Mais dans ma tête, je suis sorti du milieu familial à ce moment-là.
Vous avez le souvenir de confrontation avec vos parents ?
Non, on parlait pas politique. Mes parents, c'était des lecteurs du Monde. Ils votaient socialistes. Toujours.
Vous quittez justement le Parti communiste, en tout cas les jeunesses communistes, en 56. Vous avez 20 ans. Quand les communistes se rallient à Guy Mollet, c'est donc la fin de votre engagement communiste à ce moment-là. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre?
Non, pas du tout. C'était évident. Les communistes ont été lamentables pendant la guerre d'Algérie. Lamentables.
En quel sens?
Un exemple. Il y a eu des réseaux d'aide au FLN, dont je faisais partie d'un de ces réseaux. Mais l'un d'entre eux, qui était assez connu, assez connu quand il a été découvert, qui s'appelait le réseau Janson. Janson était le secrétaire de Sartre, Francis Janson. Lorsque ce réseau a été démantelé, un de mes amis communistes a été mis en prison avec les autres. Et le parti, non seulement l'a pas défendu, mais l'a exclu quand il était en prison. Parce qu'il avait transgressé la directive du parti de ne pas aider directement le FLN. Non, ils ont été au-dessous de tout.
Vous vous souvenez du moment où vous avez claqué la porte ?
Non, il n'y a pas de moment où j'ai claqué la porte. Ça s'est fait... Non, on ne claque pas la porte. Ah, non, 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 ça s'est fait vite. Les choses se défont. On ne claque pas la porte.
Et votre engagement au sein du FLN, il s'est fait en réaction, justement, à cette attitude ?
Non, pas en réaction. Il s'est fait tout naturellement... engagement, je faisais pas grand-chose. Hein. Mais enfin, qu'est-ce que je faisais? Il y avait un gars ou une fille qui arrivait à la maison avec une valise dans laquelle il y avait des billets. Alors on comptait les billets, ça prend du temps. Hein. On mettait une heure à compter les billets, on buvait un café, on refermait la valise, le gars ou la fille s'en allait, et le lendemain, il y en avait un autre qui revenait, un autre différent, qui venait prendre la valise, alors on ouvrait, on recomptait, bis, et puis partait. Voilà, c'est ça mon... Je veux dire, c'est pas très...
Il faut quand même... C'est quand même une affaire de confiance. Comment est-ce que comment vous avez été introduit dans cette...
Par un ami qui m'a demandé, est-ce que tu accepterais de faire ça? J'ai dit oui. J'ai pas hésité, c'était pas grand-chose.
Au sein de ce groupe des porteurs de valises, qu'on appelle les porteurs de valises...
Je n'en ai jamais porté, je les ai toujours...
Ouvertes.
Oui, ouverte, fermée, pas portée.
En tout cas, il y avait beaucoup de médecins, vous le précisez, ça pareil dans ce livre d'entretien que Mathieu Pot-Bonneville a recueilli, Faire mouvement.
Enfin, il y en avait beaucoup, il y en avait.
Il y en avait. Est-ce que à ce moment-là, donc, vous aviez un peu plus d'une vingtaine d'années, il me semble, vous aviez Même un peu plus, oui.
Oui, oui, oui.
Est-ce que ça a compté, cette donnée-là, dans votre choix de faire médecin, d'être médecin ?
Ah non, il était antérieur, mon choix. Non, ça a joué au moment de l'indépendance, en 62, l'indépendance de l'Algérie. La France, dans sa grande mission civilisatrice, n'avait pas fait de médecin algérien. Et tous les médecins français sont partis. Si bien qu'en Algérie, il n'y avait plus de médecins. Enfin, il en restait. Avec les doigts d'une main, on avait trop pour compter ce qui restait. Et donc, un ami qui s'appelle André Bache, le petit-fils de Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme, qui a été assassiné par la milice. André Bache a organisé, avec un don incroyable, il a organisé le départ d'une bonne, je dirais, vingtaine de médecins et chirurgiens qui sont partis en Algérie dans ce mois autour de l'indépendance algérienne. Et donc, là, je me suis retrouvé dans un petit bled, un gros bourg de la Métidja qui s'appelait à l'époque Marengo, où j'ai été pendant un moment médecin, chirurgien, pédiatre, accoucheur, je faisais tout. Tout le monde était parti, sauf une personne que j'oublierai jamais, une grande blonde alsacienne qui était l'infirmière, anesthésiste, sage-femme. C'est elle qui m'a fait faire des forceps incroyables que aujourd'hui, rien que d'y penser, je frémis. Elle posait les cuillères du forceps. Hein. C'est elle qui posait les cuillères, heureusement. Et elle disait, maintenant vous tirez. Parce que la personne qui est inférieure dans la hiérarchie, elle pose les cuillères des forceps et elle ne tire pas. Alors moi, je tirais un peu. Elle dit, non, vous mettez le pied sur la table et vous tirez toutes vos forces. Je dis, mais comment je tire de toutes mes forces? Je vais partir avec la tête et je vais traverser le mur d'arrière. Elle me dit, tirez. Voilà, j'ai fait des forceps comme ça, que j'avais jamais fait, que je ne referai jamais. Très dangereux, bien sûr, pour l'enfant. Le chirurgien, lui, il s'en sort. L'enfant, il court un grand danger, évidemment.
Ça a été une école pour vous, ce séjour en Algérie, pour le jeune interne que vous étiez?
Il voulait que je reste. Il me disait, là-bas, il y en a plein des comme toi, mais si tu... reste avec nous.
Vos patients?
Les gars du coin. Le lieutenant du FLN qui marchait avec un plat de marche et deux balles dans la jambe. Il me disait, mais reste avec nous. Je crois que si j'avais été enfin à l'internat, je serais resté. Mais là, j'étais au milieu de l'internat. C'est un peu bête. Couper l'internat au milieu, laisser tomber. Non. Donc, je suis parti.
Vous étiez resté combien de temps en Algérie?
Je ne me rappelle plus. Un mois et demi par là, il me semble. C'était extraordinaire. Je me rappelle, j'ai fait circuler dans la ville une camionnette avec un haut-parleur pour dire qu'il fallait arrêter le lait quand un nourrisson a la diarrhée. Parce que la médecine était clochardisée. Il n'y avait pas le savoir moderne et le savoir des grands-mères s'était perdu. C'était une médecine clochardisée. Elle ne savait pas qu'il fallait arrêter le lait quand un gosse a la diarrhée. Les grands-mères le savaient, mais c'était perdu. Et il y avait beaucoup de déshydratation, c'était en plein été, hein, beaucoup de déshydratation de nourrissons. On avait tendu un fil de fer entre les deux murs d'une pièce. On mettait les gosses, les bébés là sur des matelas par terre et on les réanimait en goutte à goutte sous-cutanée. Ça marchait très bien. On n'en a pas perdu. Ceux qui sont arrivés vivants sont tous ressortis vivants. Il y en avait plein. Des fois, il y en avait 15. Non, c'était bien.
Une question.
J'ai vraiment beaucoup eu le cœur serré en partant. Encore maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce qui leur est arrivé après? Après, on a été relayés par les médecins de l'Est, par les Tchèques, les Bulgares.
Une question que je me pose, c'est avant cette période, vous avez fait l'armée?
Oui, 28 mois.
C'était en quelle année?
58-61.
Et on aurait pu vous envoyer vous battre en Algérie à cette époque-là?
J'étais dans la marine, médecin d'abord, et dans la marine. Alors, j'étais à un moment donné dans des unités du côté d'Arzeux, pas loin d'Oran, et puis j'étais sur des bateaux, et puis on débarquait dans des ports, des choses. J'ai bien connu l'Algérie en guerre, oui, bien sûr.
Ça vous a marqué ?
Ce qui m'a marqué, c'est la brutalité et l'inconscience. Disons, après l'expérience de l'Algérie, j'ai beaucoup moins détesté les Allemands pendant les Allemands des années de la guerre. Je ne dis pas les SS. La banalité du mal allemand, il y avait la banalité du mal française. Donc ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est pour ça que moi, j'ai jamais eu depuis aucun problème avec les Allemands. Dans ma tête. J'en avais jamais eu avant, mais...
Là, c'était définitivement réglé.
Oui.
Quand est-ce que vous devenez chef de clinique à l'hôpital Laennec?
Chef de clinique, c'est un titre assez ronflant, mais ce n'est pas un vrai titre. On finit son internat, ça dure 4 ans. J'ai dû finir mon internat en 64-65. À ce moment-là, vous n'êtes pas encore titulaire, et il y a une espèce de... Il y avait. Tout ça, ça n'existe plus. Il y avait à ce moment-là un stade intermédiaire qu'on appelait chef de clinique, c'est assez beau, mais ça ne voulait rien dire, qui était au fond... vieil interne qui supervisait et aidait les plus jeunes et faisait une bonne partie du boulot dans les hôpitaux.
Et donc ça, c'était
comme médecin et comme chirurgien. Je pense que je suis resté chef de clinique de 66 à 72 et j'ai été nommé chirurgien des hôpitaux en 72, si ma mémoire est bonne, à peu près.
Dans une traversée de Paris. Donc, un de vos livres, vous écrivez que votre mémoire chirurgicale est plus peuplée d'échecs que de succès. Les patients que vous avez perdus, vous dites que vous les gardez comme des reproches muets dans un coin de vos souvenirs. Est-ce que vous
avez... Je crois que tout le monde est comme ça. Un opéré qu'on opère et qui va bien, c'est normal. C'est normal.
N'avez-vous jamais
pensé... La norme, c'est que ça aille bien. Et c'est le plus fréquent. Et ça, on n'a pas tellement raison de s'en souvenir. En revanche, des opérations qui ont mal tourné, eh bien, celles-là, on a tendance à... C'est pas par masochisme que je dis qu'on se souvient plus de ces échecs, tout simplement, c'est normal. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Je pense que tous les chirurgiens, c'est pareil.
Vous n'avez jamais eu envie d'écrire sur cette période de votre vie ? Vous qui vous racontez beaucoup, Éric Hazan ?
Non, j'ai jamais eu envie. Je me raconte beaucoup.
Vous vous racontez beaucoup en tant qu'éditeur ? En tant que parisien ?
Ouais. En tant que chirurgien, je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant à raconter.
Dernière grande étape de cet entretien pour aujourd'hui, c'est votre expérience libanaise et votre engagement pro-palestinien. Vous partez donc au Liban en 1975, 5 ans avant vous fonder avec le professeur Miliez et Marcel Francis Kahn, l'association médicale franco-palestinienne.
Je ne sais pas si Miliez en faisait partie, je ne suis pas sûr.
C'est ce que j'ai lu.
Marcel Francis Kahn, c'est sûr, il était l'âme de cette association. C'est un type formidable. C'est à cause de lui que je suis parti au Liban. On s'est croisé un jour dans la rue, il m'a dit « Écoute, tu veux pas partir mardi, là, au Liban, parce que ils ont pas de médecins, ils ont pas de chirurgiens, là, et c'est la guerre. » Alors, j'ai rapidement réfléchi, et puis j'ai dit oui.
Qu'est-ce qui vous a fait dire oui ?
Ça me paraissait évident, que s'il est... Ce que je soutiens, s'ils ont besoin de moi, j'y vais. Non ? Il me semble. Ou alors, c'est un soutien bien, bien fragile.
Vous racontez, Éric Hazan, que vous travaillez dans une mosquée de village transformée en hôpital, où vous rencontrez des Palestiniens, des Irakiens, des Égyptiens...
Comme médecin.
Oui. Qui vous ont raconté des choses nouvelles pour vous. C'était quoi ces choses nouvelles ? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ?
Mais c'était très, très formidable d'avoir des amis, des collègues, des gens qui sont devenus des amis, parce que les Irakiens en question, ils sont repassés me voir à Paris, un peu après, ils partaient en t-shirt en plein hiver en Pologne ou en Russie. Alors je leur ai filé mes affaires, quoi, mes pullovers, mais vous n'allez pas partir comme ça. Ces gens-là sont devenus des amis, oui. Les autres, les Palestiniens, non, je ne les ai jamais revus.
Vous expliquez que... Cette expérience, en tout cas cet engagement, et cette expérience au Liban, depuis tout cela, vous avez à cœur de défendre la cause des Palestiniens, mais que ce n'est que à la fabrique, donc près de 20 ans plus tard, que vous avez pu concrétiser ce soutien en publiant des livres sur le sujet. Qu'est-ce que la cause palestinienne vous a appris de votre engagement, de votre désir d'engagement politique ?
Je mettrai les choses à l'envers. C'est mon engagement politique depuis que je suis gamin qui m'a amené à soutenir la cause palestinienne. Mais ça c'est, je vous l'ai dit, ça date de 67. À partir de 67, je peux dire que je n'ai pas cessé d'être un défenseur d'une paix juste et d'une réconciliation au Proche-Orient, plus que de soutenir les Palestiniens. Il ne s'agit pas de soutenir un peuple contre un autre, il s'agit de soutenir la cause de la paix.
Est-ce que
Mais vraiment soutenir la cause de la paix, pas comme le fameux camp de la paix qui est en fait un fauteur de guerre.
Et comment est-ce qu'on soutient ?
Comme on peut. S'il faut partir au Liban pour faire le chirurgien d'une armée, c'est une chose. Et s'il faut éditer des livres, c'est une autre. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Je pense que nous avons joué, la fabrique a joué un rôle important dans la diffusion d'un certain nombre d'idées, en particulier grâce à Édouard Saïd, que Dominique Aidé m'a fait connaître. Grâce à Édouard Saïd, j'ai compris. Je n'avais pas compris avant. Mais j'ai connu Saïd en 99-2000, au tournant du siècle. J'ai connu Saïd et il m'a expliqué que Arafat était beaucoup plus proche de Pétain que de Mandela, que l'État palestinien, il n'y en aurait jamais, et que c'est bien qu'il n'y en ait jamais, et que la seule solution, c'est un État binational où les 10 millions, 11 millions d'êtres humains qui vivent entre le Jourdain et la mer vivraient ensemble dans un système d'égalité absolue et que c'était la seule façon d'avoir une paix juste et une réconciliation. Et ça, vraiment, Saïd, il avait publié dans le New York Times en 1999 un article sur un État binational. Alors que l'idée d'État binational, qui avait été vraiment une idée qui avait failli gagner en 1947 à l'ONU, failli gagner, elle était complètement tombée dans une trappe, plus personne n'en parlait. Et c'est lui qui l'a ressorti, lui qui a dit les accords d'Oslo, c'est une catastrophe. Il avait d'ailleurs démissionné du Conseil national palestinien au moment des accords d'Oslo pour protester. Et lui, grâce à Saïd, j'ai vraiment bien compris, enfin j'ai enfin compris, l'essentiel de la question palestinienne.
Vous me parlez d'Edward Saïd, il y a eu aussi des auteurs comme Amira Haas, il y a eu Mustapha Barghouti, il y en a eu d'autres.
Ah oui, on a beaucoup publié d'auteurs israéliens, palestiniens, autour de la question palestinienne, beaucoup, beaucoup. On a vraiment contribué à faire connaître cette question en France.
À la fabrique.
À la fabrique, sans aucun soutien des médias, jamais.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, Éric Hazan, à publier aujourd'hui sur cette question ? Qu'est-ce qu'il manque à la réflexion que vous avez menée jusqu'alors au sein de la fabrique ?
Nous avons publié récemment un livre d'Eyal Sivan et Armel Labori qui s'appelle « Un boycott légitime » sur la nécessité du boycott intellectuel. Parce que le grand produit d'exportation de l'État hébreu, c'est pas les oranges, hein, c'est pas les mandarines ni les avocats, ça c'est rien du tout. C'est le cinéma, les livres. Et nous appelons au boycott, ce livre appelle au boycott de tout ce qui est initié par l'État d'Israël. Pas le boycott individuel des gens. On va pas boycotter machin. Par exemple, ce qui va s'ouvrir en 2018, l'année prochaine, va s'ouvrir l'année d'Israël à Paris. Eh bien ça, c'est vraiment un boycotté, complètement un boycotté, et je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, là où on est arrivé au degré de fascisation dans lequel est arrivé le régime israélien, ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls.
C'est-à-dire ?
ils ne peuvent pas s'en sortir de l'intérieur, d'un mouvement intérieur. C'est trop verrouillé. Il faut qu'ils soient aidés, comme ont été aidés les Sud-Africains par le boycott. L'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid à cause du boycott. Parce que à ce moment-là, le boycott entraînait de tels inconvénients que ça ne pouvait plus durer, on ne pouvait plus continuer comme ça. Eh bien, c'est ça à quoi il faut arriver avec Israël. Il faut arriver à ce que les inconvénients de continuer leur politique l'emportent sur les avantages et qu'ils en tirent les conséquences.
Mais aujourd'hui, si on parle de boycotter l'État d'Israël, on vit dans un contexte de tension par rapport à cette question aujourd'hui, qui fait qu'on peut vous accuser, et d'ailleurs certaines personnalités ne s'en sont pas privées, d'incitation à la haine ou de choses de ce genre.
Si
c'est compliqué
dit,
aujourd'hui.
Si on dit que le gouvernement Trump, c'est quelque chose de terrifiant, est-ce que pour autant on peut être accusé de détester le peuple américain ?
Est-ce que la création d'une maison d'édition comme La Fabrique, la vôtre, donc, était aussi destinée à publier des ouvrages qui n'auraient pas trouvé de soutien ? Vous aviez parlé de soutien ou d'éditeurs ailleurs.
Tout ce dont on vient de parler. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres maisons d'édition qui aient sur la Palestine une production aussi clairement orientée et aussi abondante que nous. Autrement, moi, le reste... Je pense qu'il y a des très bonnes maisons, je sais. Pour répondre à cette question, est-ce qu'on publie des choses qu'ailleurs on ne publierait pas ?
En tout cas, est-ce que c'est la nécessité d'avoir. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous trouviez la création d'une maison comme La Fabrique nécessaire ?
Oui. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les maisons qui se sont créées depuis. Il y avait. À l'époque où on a créé La Fabrique, il y avait une maison sœur. Qui est à Gaune, à Marseille. Point. Aujourd'hui, il y en a 12, peut-être plus, maisons d'édition qui publient des très bons livres dans une direction politique qui n'est pas très loin de la nôtre. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas.
Merci, Eric Hazan.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Eric Hazan. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.